La vie secrète des œuvres d'art.
Passer sa vie accrochée sur un mur, c'est pas une vie ça. Moi je préfère aller jouer avec mes amis au lieu de rester à la même place.
La vie secrète des œuvres d'art. Une balado qui va te faire découvrir des œuvres de la collection du musée d'art de Rouyn-Noranda.
C'est quoi une collection?
Eh bien, la collection, c'est l'ensemble des œuvres acquises par le musée et conservées par un gestionnaire des collections. Le gestionnaire des collections, il est responsable de la sécurité et de la conservation des œuvres. Personne ne peut aller dans la réserve sans son autorisation. Sinon, il fait de grands yeux et il crache du feu.
Est-ce qu'on peut y aller?
Si tu me promets de ne pas faire de bruit, on peut y aller. J'ai volé la clé.
Ok, on y va?
Ok. On allume. Attention où tu mets les pieds. Il y a des cartons. Tu vois? Tout ça, c'est des œuvres.
Waouh, c'est grand, il y a beaucoup d'œuvres.
Tiens, je vais te raconter la vie secrète de celle-ci. Là, je vais te parler d'un artiste venu de loin.
Comme toi?
Lui, c'est encore plus loin. Il s'appelle Lemon Mitris. Lemon Mitris est né en 1920 dans un petit pays de plus ou moins 2 millions d'habitants. Ça s'appelle la Lettonie. Il arrive au Canada en 1948 et il est mort à Rouyn en 2009. En tant qu'artiste, il a produit une œuvre reconnaissable à deux caractéristiques techniques principales. Soit il peint des paysages classiques avec de petits cercles à l'encre pour rehausser les scènes, soit il crée des hauts-reliefs.
Un haut-relief? C'est quoi ça?
Ben, c'est une technique. En fait, c'est une technique en trois dimensions qu'on utilise habituellement en sculpture. Ça permet de montrer l'épaisseur de la sculpture. Dans un haut-relief, il y a toujours une partie plus ou moins importante de la sculpture qui se détache de la paroi où elle est située. Ça permet de faire apparaître le sujet en relief par rapport à la surface plane qui en constitue le fond. Le haut-relief, en fait, c'est la technique qui permet de mettre en proéminence une partie de la sculpture. Tu peux voir ça notamment sur les façades des monuments et des églises. C'est une technique qu'on utilise depuis l'Antiquité.
Il n'est pas très moderne, maîtrise.
Au contraire, on peut faire un parallèle entre les avancées technologiques, la vie de Lemon Mitris et son œuvre. Il se trouve que l'artiste a longtemps travaillé à la radio. De plus, il a été témoin des nombreuses percées significatives en matière de technologie tout au long de son existence. Par exemple, il a été témoin des premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Le passage de la télévision en couleur l'a sans doute beaucoup influencé aussi.
Comme ça, la télé n'était pas en couleur avant?
Ben non.
Ah oui? Ok. Mais comment voit-on le lien avec les technologies?
Tout cela se traduit dans l'agencement des couleurs, des formes et des textures. Par exemple, l'œuvre dont je vais te raconter la vie secrète est un paysage assez classique. Mais on peut y voir ses caractéristiques. Ça s'appelle First Snowfall. Ça veut dire « première chute de neige » en anglais.
Qu'est-ce que ça raconte?
Mitris nous présente dans cette œuvre un paysage hivernal. Tout au fond du tableau, il y a un édifice qui ressemble à une église. L'édifice se tient seul au milieu de quelques arbres qui ressemblent à des conifères. Derrière l'édifice, on peut apercevoir de gros nuages qui s'accumulent. Et devant l'édifice, sur une route enneigée, se trouvent trois personnages. Un homme qui tire un traîneau dans lequel se trouve un enfant. Devant l'homme, il y a une femme qui marche. L'homme et la femme ont les épaules légèrement courbées. L'enfant, de son côté, est calé dans le traîneau. Tout en avant-plan, Mitris a dessiné des monticules aux couleurs vives et multiples. Est-ce que ce sont des tas de neige? Est-ce que, au contraire, ce sont des arbustes qu'on a recouverts pour les protéger de la neige?
On ne le sait pas.
La question reste entière, c'est ça. Autrement, tout est couvert de blanc. Mais il y a quand même du soleil, car on voit les ombres des personnages et des arbres.
Que signifie cette œuvre pour toi?
C'est une œuvre qui soulève plusieurs questions. Dans un premier temps, on peut se demander ce que représentent ces personnages dans ce paysage. D'où viennent ces personnes? Pourquoi cet immeuble isolé? Est-ce que les trois personnages sont partis de l'immeuble? Où vont-ils? Plusieurs questions restent en suspens. Donc, ce qui m'interpelle particulièrement dans ce tableau, ce sont les personnages. L'homme et la femme ont l'air tristes, amorphes, emmurés dans la désolation. Du coup, la question la plus importante pour moi est la suivante. Que se passe-t-il dans leur tête?
Bonne chance pour le savoir.
Mais je trouve que ces personnes offrent une allégorie de la condition humaine.
Une allégorie?
Oui, une allégorie, c'est le fait d'utiliser quelque chose de concret pour représenter quelque chose qui est abstrait. Est-ce que tu te souviens de la chanson « Le petit bonheur » ?
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer,
il s'est mis à crier.
Tu vois, c'est mieux quand je chante avec toi.
Dans cette chanson, Félix Leclerc parle du bonheur. Il le transforme en quelque chose de concret, qui pleure, qui parle et qu'on voit. Il utilise une allégorie en le personnifiant.
Mais c'est quoi la condition humaine?
Cette condition est que l'être humain est un être malheureux parce qu'il ne sait pas profiter du moment présent. Ces personnages me font penser à un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » qui a été écrit par Eckhart Tolle. Dans ce livre, l'écrivain se pose en héritier des stoïciens. Tu sais, les stoïciens, ce sont des philosophes. Selon Eckhart Tolle, la clé du bonheur est de s'abandonner au moment présent. Pour cela, il faut apprendre à remplacer la pensée par la présence. Toute notre attention doit se concentrer sur ce qui se passe autour de nous, au moment présent. C'est la condition du bonheur. Sauf que, en réalité, notre pensée porte sur le passé et sur l'avenir. Par exemple, nous rencontrons une personne qui nous dit quelque chose qui nous blesse. Nous partons. Puis, nous nous mettons à penser à ce que nous aurions dû ou nous aurions pu lui répondre. Nous ressassons et cela nous affecte. Cela nous rend malheureux. Est-ce qu'on peut vraiment y changer quelque chose?
Non.
Mais alors, à quoi bon nous torturer, nous faire du mal en y pensant, au lieu d'admirer la neige qui tombe? Cette obsession analytique serait la source de notre malheur. Or, il se trouve que nous ne savons pas faire autrement. Nous ne savons pas ne pas penser au passé et au futur. La pensée compulsive est décorrélée du moment présent. Quand on regarde les personnages, on se dit qu'ils ne sont pas en contact avec la réalité. Ils sont dans une bulle spéculative, sans contact avec la réalité. Ils ne sont pas en train de profiter du moment présent, tellement ils sont absorbés par leurs pensées. Ils sont tristes. La situation des personnages me fait penser au mythe de Prométhée.
C'est quoi ça? Ah, c'est un dieu mythologique?
Ouais, c'est un personnage mythologique. Mais dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan qui vole le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes. Quand le feu est maîtrisé, l'homme peut l'utiliser pour s'éclairer, pour se chauffer, pour faire cuire des aliments, par exemple. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe?
Il brûle les maisons.
C'est ça, c'est l'incendie. C'est la même chose avec la pensée. Trop penser, c'est se soumettre à l'inquiétude, à la souffrance. C'est ne pas profiter du moment présent. Donc pour être malheureux, il suffit de penser au pire, selon les stoïciens. Donc pas besoin d'être malade, d'être seul pour être malheureux. En revanche, pour être heureux, il faut savoir profiter du moment présent. Et puis en cela, je pense que les enfants sont nos maîtres.
Pourquoi?
Parce que les enfants, ils ne passent pas leur temps à penser au passé et au futur. Ils sont dans le moment présent. Le tableau Snowfall de Mithras illustre cette vision du monde.
Mais si les personnages étaient tout simplement chicanes?
Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais pourquoi pas? La vie secrète des œuvres d'art. Une balado réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Culture et du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture.
Prise de son et arrangement.
Studio adéquat. La vie secrète des œuvres d'art, une balado de Giovanni
et Fed.
Pour le musée d'art de Rouyn-Noranda.
C'est déjà fini?
Ouais, là il faut remonter.
Oh...